Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale consacrée aux travailleurs humanitaires. Notre invitée est Claudine Joseph, humanitaire des Nations Unies. Claudine fait partie des milliers de gens ordinaires qui font un travail extraordinaire dans des conditions difficiles. Dans cette première partie, cette maman haïtienne déterminée raconte son expérience de terrain dans la région du lac Tchad, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée.
Bonjour, je suis Claudine Joseph, je suis une travailleuse humanitaire, je travaille pour UN OCHA. Je suis basée à Bagassola. C'est une région du Tchad, dans la région du bassin du lac Tchad. Et c'est limitrophe au Niger, au Nigeria. Vous savez, là-bas, on fait face à beaucoup de problématiques qui sont exacerbées particulièrement par les questions sécuritaires. La région fait également face à des crises structurelles de sous-développement. Et ça provoque des mouvements constants de population. Et aussi des problèmes liés à la santé, les problèmes d'ordre sanitaire et également l'insécurité alimentaire. Bon, ce qui est compréhensible parce qu'une population qui est constamment en mouvement ne peut pas se focaliser sur les activités structurelles qui pourraient provoquer le développement. Et tout ça s'est coiffé aussi par la crise très aiguë de Boko Haram depuis 2015 qui affecte la région.
Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés sur le terrain?
Les défis sont énormes. D'abord, sur le plan professionnel, à cause, je dirais, du contexte tel qu'il est, ça réduit considérablement, je dirais, l'espace humanitaire. C'est-à-dire, les personnes dans le besoin, en général, il nous est très difficile des fois de les atteindre à cause des problèmes sécuritaires. Il y a également d'autres facteurs liés au changement climatique. Par exemple, dans la région du lac Tchad, il y a ce phénomène qu'on appelle la montée des eaux. C'est vers décembre, novembre-décembre, jusqu'au mois d'avril, avril-mai, jusqu'à l'arrivée de la saison des pluies. Et ça limite considérablement les mouvements des humanitaires. Et c'est pour nous une source, je dirais, de complications par rapport à notre travail, parce que très souvent, tu sais qu'il y a des mouvements de population, tu n'as même pas les moyens d'aller vérifier, de mesurer l'ampleur et d'organiser la réponse. Ça, c'est le défi majeur. Bon, on essaie quand même de nous organiser avec des partenaires locaux comme la Croix-Rouge, les organisations locales qui sont un peu plus mobiles et moins visibles que nous autres. Bon, du coup, on arrive quand même à trouver des mécanismes qui nous permettent quand même de faire avancer un peu les choses dans la mesure du possible. Ensuite, il y a également des défis d'ordre personnel. Par exemple, dans cette zone-là, il est très difficile, par exemple, de trouver des activités ou du moins même avoir accès à des légumes, par exemple, des fruits. C'est un endroit là où la sécheresse également est très, très, très criante. Et du coup, il faut vraiment trouver des mécanismes pour pouvoir s'adapter et trouver les mesures alternatives pour se nourrir correctement, plus ou moins. Et également ne pas se laisser non plus abattu par le stress de l'environnement. Trouver un moyen quand même pour faire l'équilibre entre la vie, je dirais personnelle, la vie professionnelle, mais également trouver aussi l'équilibre avec la vie familiale et sociale.
C'est un contexte difficile à tous les niveaux.
C'est difficile, mais je me dis tous les matins, pourquoi ça devait être facile?
Vous devez voir quand même des choses difficiles sur le terrain. Qu'est-ce qui vous donne la force d'aller de l'avant?
Bon, moi, je me dis toujours, et je dis toujours à mes collègues, bon, à ma famille, bon, des fois, ils disent, oh, bon, toi, tu n'as pas peur, etc. Ils disent, bon, non, je suis une personne normale comme tout le monde. Ce n'est pas une question d'avoir peur ou pas, mais c'est une question de savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on se donne comme mission. Et c'est pourquoi je dis souvent que les Nations Unies m'ont offert cette chance unique d'allier ce que je suis comme personne, ce que je me donne comme mission comme personne, et de le faire comme un travail. C'est un privilège, je le vois comme un privilège.
Justement, qu'est-ce qui vous a amené à devenir travailleuse humanitaire?
Bon, ça n'a pas été un appel. au début, c'était un travail comme les autres travails, mais c'est un travail qui m'a donné la chance d'ouvrir les yeux sur la complexité du monde dans lequel nous vivons, les souffrances également auxquelles font face les gens. C'est pas évident, hein, quand on n'est pas dans un tel environnement, de mesurer vraiment tout ça. Et c'est pour moi vraiment un privilège de comprendre. Il y a un célèbre auteur chez moi, un poète, bon, il vient tout juste de mourir, il s'appelait Georges Castra. Georges Castra disait, alors je vais le dire en créole et après je vais traduire, Georges Castra disait, l'or fait mes yeux, même figure en blackout. Ça veut dire, quand vous fermez les yeux, vous n'arrivez même pas à voir votre visage. Il fait noir partout. C'est-à-dire, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut être conscient, se sentir concerné, être conscient du monde qui nous entoure. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Et je pense que c'est cet avantage-là que ce travail-là me donne. Alors, en faisant le travail, maintenant, c'est plus pour moi, c'est comme un sacerdoce. C'est plus qu'un travail. Je me sens vivante.
C'est une vocation.
C'est une vocation. Je me sens utile à quelque chose. Même si c'est petit, une petite chose. Un sourire.
Vous n'avez pas des moments où vous baissez les bras, où il faut justement s'inspirer de quelque chose pour prendre des forces?
Ah, bien sûr, ça nous arrive à tous. Je ne suis pas superwoman. Mais alors, ma force vient toujours du fait de la mission que je me donne. Comment faire quelque chose? Comment m'assurer que ce que je fais là fait une petite différence? Je ne m'attends pas à faire... non, pas du tout.
Vous dites que ça a commencé comme un travail. Comment est-ce que vous êtes tombée sur ce travail? Comment est-ce que vous avez commencé ce travail?
Bon, j'ai postulé comme tout le monde.
Vous étiez basée à New York ou...
Non, pas du tout. C'est dans une petite ville en Haïti, à Port-de-Paix. J'ai commencé avec DPKO, la mission de paix qu'il y avait là-bas. J'étais admin assistant au Civil Affairs. Ensuite, j'ai trouvé une promotion, j'ai commencé à travailler avec le Gender Unit comme Gender Officer.
Tout ce qui est question de...
d'égalité de genre, voilà. J'ai également eu la chance, après le tremblement de terre, j'ai voulu vraiment m'impliquer un peu plus dans la réponse et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint UN OCHA. C'était en 2010. À partir de là, je pense que j'ai trouvé ma voie.
Vous êtes donc la protagoniste de cette campagne qui vient d'être lancée par OCHA sur les travailleurs humanitaires. On vous décrit dans cette vidéo, votre fils vous décrit dans cette vidéo, comme quelqu'un d'impatient, de têtu, qui se mêle des affaires des autres. Quelles sont, selon vous, les qualités dont on a besoin pour être justement un travailleur humanitaire efficace? Ce n'est pas forcément ces qualités-là auxquelles on pense quand on pense à un travailleur humanitaire.
Je pense qu'il a dit ce qu'il pense avec ses mots d'enfant, mais je suis contente qu'il me voit comme ça. Particulièrement lui. Bref, je pense que... En disant cela, il voulait surtout peut-être démontrer que je ne veux pas baisser les bras avec lui et que je veux m'assurer qu'il essaie de trouver sa voie, qu'il essaie également de faire de son mieux pour se construire en tant que personne. Puis voilà. Mais étant qu'humanitaire, je pense qu'effectivement, moi je le dis souvent, je ne vois pas le travail humanitaire comme business as usual. Non, ça ne peut pas être ça. Parce que les contextes changent et également, si on veut vraiment faire un travail centré sur les personnes, il faut vraiment qu'on sorte un peu des fois des schémas classiques et essayer de trouver, je dirais, la meilleure façon pour servir réellement. Parce que c'est un leadership de service qu'on fait. Le travail humanitaire, ce n'est pas un travail pour se faire valoir soi-même ou du moins se mettre en vedette. Non, c'est un travail de service. Et c'est pourquoi j'ai aimé votre terme sacerdoce. C'est un sacerdoce. On est là pour servir les gens. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, quel que soit ce que ça demande, la ténacité, on se mêle des affaires des autres. Voilà. C'est pour le bien des personnes. Ça fait partie du jeu.
je vais revenir un peu à votre fils. Alors, il est manifestement très fier de vous. Et en même temps, vous lui manquez énormément.
Ouais.
Il doit, connaissant le contexte, aussi s'inquiéter pour vous, pour votre sécurité. Mm-hmm. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier tout ça ? En même temps, vous êtes très impliqué, vous l'appelez tous les jours, vous êtes vraiment derrière lui pour qu'il se construise. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier le tout ?
Bon, c'est effectivement, je pense, le plus complexe de tout ça, c'est essayer d'être un parent quand même qui soit à l'écoute de son enfant, qui essaie de le comprendre, de le soutenir, etc. Je ne dirais pas que c'est facile tous les jours, mais je pense que en même temps, c'est pas quelque chose non plus qui est en quelque sorte une finalité, c'est un processus. C'est-à-dire, par exemple, quand je viens ici, je fais vraiment tout ce que je peux pour passer des moments de qualité. Et je pense que ça fait une différence. Et aussi, informer l'enfant. Pas l'informer pour créer un peu la panique, mais l'informer, essayer aussi de faire comprendre à l'enfant ce qu'on fait. Et en même temps, lui faire comprendre également que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde où tout est rose, tout est beau, non. Et que mamie essaie de faire un travail, certes un peu difficile, surtout pour lui, parce que je suis obligée d'être à des milliers de kilomètres, mais c'est un travail aussi. Et en même temps, lui démontrer aussi comment ce que je fais, c'est aussi en quelque sorte pour lui, pour demain. C'est un peu aussi l'infime héritage que je peux aussi laisser pour lui et pour les générations de futurs, c'est-à-dire essayer autant que possible, même si c'est dans la vie d'une personne, d'une petite famille, d'une femme, d'un enfant, faire une petite différence. Et je pense que c'est à ce qu'on est tous un peu appelés, jouer notre petite partition. Là, je pense qu'il commence à comprendre le message et il collabore. Mais par rapport à la sécurité, bon, moi je lui dis que dans la vie, tout est relatif. Je peux être à New York et quelque chose m'arrive. Comme ça peut m'arriver à Bagassoula ou n'importe où dans le monde. Nous vivons dans un monde où personne ne maîtrise rien. Tout est relatif. Alors, je pense qu'il est assez grand, il comprend et je pense qu'il est aussi assez mature pour faire toute cette différence-là.
Et la distance ?
La distance est un peu compliquée, mais je pense aussi, pour être honnête, que c'est pourquoi je parlais des moments de qualité. C'est mieux de passer 2 semaines vraiment ensemble où on essaie vraiment de tout partager, de partager des moments de joie, des moments qui valent la peine. Au lieu d'être tous les jours là, mais à courir, on se voit à peine 30 minutes par jour, on ne mange pas ensemble. Alors que quand je suis ici, je suis full time, là pour lui, pour ma famille. Et je pense que pour moi, l'essentiel, c'est qu'il arrive à faire cette différence-là. Bon, j'aimerais bien être là tous les jours, entrer le soir, superviser ses devoirs, etc. Sortir le week-end, aller au cinéma, aller de temps à autre au resto. Bon, mais ce n'est pas le cas, mais voilà. Et je pense que aussi, c'est temporaire. Bon, on est tous, étant que staff des Nations Unies, on bouge beaucoup, il y a des possibilités de transfert, des fois, il y a des familles de distinction. Mais en attendant, on essaie de faire avec ce qu'on a. Et je pense que jusqu'ici, on ne peut pas se plaindre.
C'est courageux.
Merci.
Et c'est avec le témoignage de Claudine Joseph que se referme cette édition d'Escale. Rendez-vous à la semaine prochaine lorsque Claudine Joseph partage comment elle fait pour ne pas baisser les bras et mener sa mission à bien face à la complexité du terrain. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence.